NDChaîne 88.4, toujours là.
NDChaîne, une émission radioactive.
Une émission radioactive sans solution ni alternative.
Qui gueule sa colère et ses haines.
Ses rêves et ses peines.
Sans manière et sans gêne.
Contre toutes les chaînes.
De l'école à la maison.
Du turbin à la prison.
Des urnes aux revendications.
Des syndicats aux négociations.
De la misère au pognon.
Du spectacle à la télévision.
De la morale à la religion.
De l'indifférence à la résignation.
De l'obéissance à la soumission.
Soyons tous de la graine de gangrène.
Brisons nos chaînes.
Tranchons les veines. Je rêve de ce monde de merde.
Banque de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Une des chaînes, presque tous les lundis. 20h, presque 21h.
Et cette fois-ci, c'est la suite de l'émission sur la Grèce.
Donc voilà, on vous a tant parlé déjà. On va essayer de faire cette espèce de numéro 2 en faisant un Reddit un peu historique qu'on avait fait dans le 1 pour ne pas perdre le fil de ce qui se passe en Grèce. Des chaînes, salut. Et donc on va entamer le thème de ce soir. Donc c'est une deuxième partie sur la Grèce, sur les événements qui sont passés en Grèce. On avait fait une première partie il y a quelques semaines sur plutôt centré sur ce qui s'était passé en décembre 2008 et sur la politique gouvernementale qui en avait suivi l'année d'après, la politique d'État de contre-insurrection. Et du coup, on voulait continuer un peu pour voir qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui, les questions qui s'y étaient posées. Et voilà, et pour commencer, donc on reprend un peu ce qui s'est passé après décembre 2008. Donc on repart en début 2009, où le mouvement s'est un peu essoufflé, même s'il y a toujours eu des grèves locales qui se sont multipliées, et surtout l'apparition de nombreux groupes avec des pratiques un peu plus radicales et avec un nombre qui n'existait pas avant, qui se sont organisés continuellement, non pas pour défiler, mais plutôt pour manifester activement, et ou organiser des actes de sabotage visant à bloquer l'économie. Donc il y a eu des occupations de bâtiments publics, des radios, des blocages, des grèves sauvages qui se sont succédées, des destructions. Mais malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de liens qui se sont faits entre toutes ces différentes luttes. Et parallèlement à ça, donc en 2009, l'État grec est en faillite. Donc il met en place un plan de rigueur et une politique de contre-insurrection qui peut se décliner sous deux aspects, qui est un aspect plutôt économique et un aspect plutôt répressif.
Ouais, et puis il y a pas mal de gens en Grèce qui disent que, en fait, en gros, la Grèce, dans la crise actuelle du capitalisme, c'est un peu un laboratoire pour mettre en place des plans de rigueur. Et donc, sur l'aspect économique, ça, c'est baisse des salaires, caser les allocations sociales, de la sécu, réforme des retraites, de l'éducation, suppression de postes. Donc, l'État social disparaît au profit de l'État répressif, avec des mesures de répression qui se multiplient, une politique contre-insurrectionnelle, avec la mise en scène médiatico-policière du terrorisme anarchiste, du bon manifestant, du mauvais, toujours la bonne vieille sauce du divisé pour mieux régner. Et en plus, parallèlement à ça, y a des élections.
Ouais, donc on en arrive à l'automne 2009, où pendant ces élections, la gauche prend le pouvoir, qui n'avait pas eu le pouvoir donc depuis longtemps, et qui continue, bien sûr, la politique d'austérité, donc par exemple, loi sur l'immigration, la politique sécuritaire, et la gauche, toujours, qui continue de se plier aux exigences du FMI. Donc qui continue à mettre en place un peu ce que tu disais sur le côté laboratoire de gestion d'un pays en crise, quoi. Et donc ça provoque une désillusion par rapport à la gauche chez de nombreuses personnes et surtout un énorme sentiment d'impuissance. Mais l'hiver connaît quand même des mobilisations qui restent revendicatives et en vue de négociations, donc bien sûr contrôlées par les syndicats. Cependant, les pratiques de destruction qui sont issues de 2008 perdurent. Alors les pratiques de destruction issues de 2008, c'est pas que la destruction d'elle-même, mais ce sont qui détruit et à quelle vue, quoi. Et donc on en arrive à cette grosse manif du 24 février qui se déroule à Athènes principalement, qui est appelée par les syndicats, qui est fortement suivie par plusieurs secteurs, donc les ports, les chantiers navals, les raffineries, les bâtiments, les banques et différents secteurs du privé dont la participation est allée de 70 à 100%, ce qui est plus que dans le public, ce qui arrive assez rarement. Et la manif est rejointe par de nombreux immigrés pour protester contre la loi sur l'immigration. Cette manif, elle finira en combat de rue, assez massive, donc bris de vitrine, pillage, etc., où il y a un peu cet espoir qui a été vécu en 2008, qui est toujours là, en fait, dans les mentalités, même si l'intensité en est pas la même, quoi. Et donc, suite à cela, bah, il y a plusieurs manifs qui sont succédées, plus ou moins suivies. Et ce qui domine surtout, en fait, l'état d'esprit, bah, c'est ce sentiment d'impuissance, avec en parallèle une colère de plus en plus forte contre les directions syndicales. Donc voilà, il y a de plus en plus de manifs le 5 mars. Par exemple, l'ex-patron de la GSEE, qui est l'équivalent de la CGT en France, qui est un gros syndicat majoritaire là-bas, qui se fait huer et chasser. Et du coup, la critique du gouvernement de gauche déborde un peu sur les revendications, mais...
En même temps, ça reste quand même cantonné aux limites des syndicats, quoi.
Voilà.
Et toutes les manifestations qu'il y a pu avoir... pendant l'hiver et au printemps.
Voilà. Et malgré que, donc, en parallèle, bah, ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a nombreux groupes anti-autoritaires avec des pratiques plus radicales qui ont continué leurs actions. Alors, des groupes, il y en a eu plein, donc il s'est posé plein de questions par rapport à la violence qu'elles pratiquent. Et après, a suivi donc, une manif dont tout le monde a parlé le 5 mai, début mai, qui s'est soldée par un accident et donc 3 morts, voilà. Avec tous les propos qui peuvent en découler par rapport à une situation qui peut se passer, donc on en reparlera après. Et ça n'a fait qu'alimenter une politique de contre-insurrection dont on vous avait parlé à l'émission d'avant. Et...
qui avait déjà été mis en place depuis 2008, hein, une politique de contre-insurrection pour casser et empêcher la généralisation de la révolte.
We'll be right back.
une des chaînes 88.4 Radio Galère. Et donc, pour continuer cette émission sur la Grèce, on va essayer de voir un peu comment cette manifestation du 5 mai, donc au cours de laquelle une banque brûle et il y a 3 morts. Donc, comment cette manif, cet événement, il a été utilisé par la propagande pour parachever tous ces dispositifs de contre-insurrection et comment ça va servir de prétexte à l'État pour réprimer encore plus violemment.
Mai 2010. La manifestation athénienne contre les mesures gouvernementales et le FMI est massive. Les chiffres de 25 000 donnés par la police semblent ridicules par rapport à la masse rassemblée sur l'avenue Patition, dans le centre-ville de la capitale. Les cortèges se suivent les uns après les autres. On trouve notamment un MLKKE, mais aussi un KKE-ML, qui sont, semble-t-il, des branches différentes du Parti communiste grec. Sont présents aussi de nombreux autres partis d'extrême gauche. La jeunesse des manifestants est frappante. Quelques cortèges rassemblent des migrants. L'envie d'en découdre avec les forces de l'ordre et avec le gouvernement est palpable. Nombreux sont les manifestants apparemment prêts à aller au conflit. Alors que la manifestation piétine vers 13h, à cause de l'engorgement rapide de l'avenue Patition, les premiers cortèges sont rapidement pris sous le feu des CRS grecs. En effet, des dizaines de manifestants, répartis tout le long des cortèges, cassent des morceaux d'escalier ou de façade pour en faire des projectiles contre la police et surtout contre les banques et autres commerces. Les débris s'amoncellent sur les côtés de la manifestation. La police ne charge pas, elle fait exploser des bombes sonores et lance quantité de grenades lacrymogènes. Nombreux sont les manifestants malades. Certains s'évanouissent, d'autres chancellent et doivent être soutenus. Tout le monde tousse, crache et pleure. La cible du jour est le Parlement, où doivent être ratifiées et signées les mesures annoncées par le gouvernement. La manifestation se scinde en deux pour contourner le bâtiment, mais les CRS ne laissent passer personne. Les premières escarmouches sérieuses commencent. Des cocktails Molotov sont envoyés sur les policiers, dont certains prennent feu. La riposte est sévère. La fumée et les déflagrations des bombes sonores dispersent les manifestants. On ne voit plus autour de soi. Les banderoles sont repliées. Une vraie guerre de position commence entre les CRS et les manifestants en colère. Certains cortèges se déploient stratégiquement pour protéger les actions. Les CRS ne plient pas. L'atmosphère devient irrespirable. La manifestation décide de contourner le blocage. La dispersion est à son comble. Et surtout la cible manquée. On entend des cris de manifestants. Brûlons le Parlement. Gouvernement, assassin. Flic, porc, assassin. Alors que le contournement du blocage s'avère inefficace car la seconde route d'accès au Parlement est également bloquée par les CRS, une partie de la manifestation décide de continuer sur une grande avenue. Celle-ci réserve une surprise de taille, le ministère de l'économie. Ce fait n'échappe pas aux manifestants, qui se déchaînent sur la porte d'entrée à grand renfort de cocktails Molotov. Le hall d'entrée prend feu et les flammes lèchent bientôt le premier étage. L'ensemble du bâtiment est rapidement touché. Alors qu'un camion de pompiers arrive pour éteindre le feu, des gens se jettent dessus, cassent les phares, arrachent le pare-choc. Certains tentent de s'opposer, pas les pompiers, mais c'est trop tard. Les pompiers décident de quitter le véhicule. Les manifestants y mettent le feu. Les vitrines de tout type de commerce volent désormais en éclats. Les CRS poursuivent les quelques 150 à 200 personnes présentes. Ce qu'il restait des manifestants se disperse. C'est la fin de la casse. En amont, des cortèges continuent à manifester plus pacifiquement. Chants et slogans rythment leur marche. Mais la police les charge et les bombes sonores continuent à pleuvoir au milieu de la fumée des gaz lacrymaux. On apprend que 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'une banque. Rumeur, disent de nombreux manifestants. C'est pour mieux nous faire plier. Mais la rumeur est tenace. Elle se répand très vite. Après la confirmation du décès de 3 employés de banque, les CRS envahissent Exarchia, dans le centre-ville d'Athènes, quartier où se trouvent la plupart des squats et des centres sociaux de la capitale. Les descentes de police sont massives et effectuées avec un objectif clair de représailles. Les ateliers et espaces de travail sont méthodiquement cassés et des dizaines de personnes sont arrêtées. Le gouvernement dit que toutes les méthodes seront mises en œuvre pour trouver les coupables. La répression s'abat sur le mouvement social grec qui démarrait pourtant à peine après un 1er mai combatif prolongé par un 5 mai massif. Il paraît à cette heure logique que le gouvernement instrumentalisera le drame pour empêcher toute protestation sociale future.
Donc voilà, donc c'est au sujet des événements du 5 mai qui sont donc arrivés en Grèce, où trois salariés d'une banque ont été sont morts suite à un incendie d'une banque et qui a créé donc beaucoup de polémiques, dans le sens où assez rapidement elles ont été imputées aux anti-autoritaires, aux anarchistes, qui de longue date pratiquaient donc la violence, on va dire, sociale ou révolutionnaire au cœur même des manifestations, en attaquant régulièrement tous les signes de l'État, les banques, les intérims ou tout ce qui peut appartenir à l'État. S'en est suivi une espèce de foire d'empoigne à ce sujet, de savoir comment on devait se positionner par rapport à ces trois malheureuses personnes décédées et qui n'étaient pas au départ du tout la cible envisagée. Ce qui a permis donc à certains anarchistes de se dissocier et de peut-être sortir aussi de leur carapace moraliste ou démocratique, et d'avoir en face tout un tas de positions assez hallucinantes, et comme certaines, assez intéressantes. Et donc là, moi, j'ai pris un extrait en fait de tout ce que j'ai pu trouver à ce sujet, donc qui a été écrit par la conspiration des cellules de feu, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, dans le sens où ils ont fait parler d'eux au travers de matériel postal qu'ils ont envoyé aux différentes crapules de la Terre. Il semblerait que d'évidence ce ne soient pas des grands professionnels de la lutte armée, étant donné que les paquets pour peu ne sont pas arrivés en tout cas, et créant bon, dans tous les cas voilà, toutes les discussions qui peuvent avoir lieu autour de la violence révolutionnaire. Donc avant de lire, j'ai commencé par lire déjà ce qu'ils ont pu écrire juste à ce sujet-là, dans un texte qu'ils ont publié le 9, donc quelques jours après le jour du décès. Durant les incidents du 5 mai qui ont concerné l'incendie de la banque Marfin, il y a eu la mort de 3 employés de banque et des milliers de vérités brûlées. Ceci ne signifie pas que nous parlons en tant que spécialistes de la violence ou que nous sommes automatiquement nommés procureurs ou défenseurs de ceux qui auraient attaqué cette banque. Dans tous les cas, ce qu'il faut à notre avis pour analyser un fait concret, c'est-à-dire la mort de 3 employés qui n'étaient pas l'objectif de cette violence révolutionnaire, c'est une attitude sérieuse et responsable sur de telles pratiques, c'est-à-dire comme celle de brûler des banques. Dans la métropole et la parodie de la vie que nous vivons, la mort n'est pas plus qu'un événement journalistique, une information lointaine parmi tant d'autres, une colonne dans un journal, une statistique de plus. Chaque jour, des gens meurent dans les hôpitaux, dans des accidents de voiture, au travail ou dans les galeries souterraines de la drogue. Et ils veulent nous voir passifs devant ces morts numérotées et anonymes. 3 morts dans un accident de voiture, 2 morts à cause de la drogue. Ça ne fait pas vendre dans les médias, parce que ces morts ne profitent pas au système. Toutes les télés bourreaux, de la plus conservatrice à la plus subversive, qui soi-disant ont été choquées que ces 3 employés soient morts dans la banque Marfin, ne résisteraient pas une minute à faire face, de la même manière, à tous les morts anonymes que le système qu'ils servent provoque. Face à la crise sociale imminente, le spectacle de la mort a causé son propre court-circuit. Les défilés se sont rétrécis en queue. Les sondages d'opinion publique contre les manifestants et les grèves ont suivi. Les fleurs du Premier ministre ont été déposées en direct à la télé. Les flics ont envahi le squat de Zaïmi et celui du groupe d'immigrés de Arcia. Les premières pages pour les meurtriers anarchistes ont commencé. Mais au-delà de la propagande et de sa technique, il subsiste un fait. 3 employés de banque, sans avoir été cibles, sont morts pendant l'incendie de la banque dans laquelle ils travaillaient. À notre tour de ne pas tomber dans le piège des statistiques, ni celui de la manipulation émotionnelle. En quelques mots,
Nous ne ferons pas semblant d'être secoués par la télévision instiguée du délire humanitaire, dedans laquelle pas mal de personnes à l'intérieur du mouvement radical se sont enfermées. Nous, nous n'agissons pas comme un noyau dur de personnes pensant uniquement à la cause, mais nous croyons que ces trois morts sont arrivées comme un accident. Et si quelqu'un cherche des assassins brutaux, alors il devrait chercher dans les rangs de Vegnopoulos, le propriétaire de la banque, et de ses congénères. Sa gérance et ses ordres, avec l'acceptation des employés, ont été ce qui les a conduits à travailler dans une banque apparemment sans protection contre les incendies et fermée à clé. De tels bâtards sont les instigateurs de plusieurs dizaines de morts physiques et mentales de travailleurs, soit dans des meurtres, dans les accidents de travail, soit dans les humiliations quotidiennes et les conditions de travail. En gardant cela comme référence, nous pouvons maintenant faire face à nos propres insuffisances, lacunes, erreurs, négligences, afin de briser la sortie d'urgence d'une pensée unilatérale qui ne veut que seulement blâmer les patrons de tout et de nous soulager, mais qui ne peut pas nous faire évoluer. Voilà, donc en fait, je ne dirais pas les parties d'autres textes qui étaient pour le coup à des moments presque délatoires, mais de rajouter seulement que si ce n'était pas un accident, et dans ce cas-là, ce serait un geste criminel aux aspirations troubles, et nous ne sommes ni flics ni juges pour les juger, et si c'est un accident, il y a là-dedans rien de confortable, comme quelques-uns pourraient le dire, mais quelque chose d'imprévisible, et qu'en fait, c'est l'idée même de faute et de responsabilité qu'il nous faut être capable de remettre en cause. Voilà, au sujet, par contre, si on veut retoucher trois mots, effectivement, de ce qui s'est passé suite à ça, ou donc largement après utilisé par les médias en termes réellement de contre-insurrection, et de créer, plus curieusement, au sein même donc de cette petite partie de l'histoire de ce grand mouvement, c'est-à-dire les anarchistes et les anti-autoritaires, de diviser encore une fois pour mieux régner.
Et ouais, en fait, les événements du 5 mai, enfin, on parle de ces événements-là. Après, c'est aussi que c'était une des plus grandes manifestations que la Grèce avait connues depuis un moment, quoi. Et bah juste, ça a servi de prétexte à l'État et aux syndicats pour casser un mouvement, pour casser des luttes. Et du coup, bah voilà, c'est juste comment on considère la mort et comment elle est utilisée d'une manière ou d'une autre selon les intérêts finalement de l'État. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est un événement qui a quand même pas mal démoralisé en Grèce et qui a mis fin, en tout cas temporairement, à un certain nombre de manifestations, etc.
Avec toute la propagande qui s'en est suivie, en fait, ça a touché à, effectivement, avec ce fonctionnement et cette réflexion émotionnelle, à changer l'ambiance et donc en démoralisant. Et a donc effectivement aussi a changé de position par rapport à cette violence révolutionnaire qui avait été jusque-là bien tolérée par les gens qui ne la pratiquaient pas forcément. Et donc là, de créer à nouveau, de désolidariser des collectifs. C'est-à-dire sans oublier que déjà jusque-là, il y avait, on peut mettre ça sous le compte du hasard, de la chance, je ne sais quoi, mais pas du professionnalisme en tout cas, de savoir qu'avec toutes les banques brûlées, il n'y avait pas eu d'accident dans ce mouvement-là du début de décembre, et que ça aurait déjà très bien pu arriver avant que ça arrive que ce jour-là. Voilà, nous on a voulu en parler quand même parce qu'on a peur que dans tout le travail de sable qui a été fait après cette insurrection en Grèce, qui en réalité a vraiment nous a appris et nous permet encore d'apprendre beaucoup de choses sur ce que peut être un mouvement social d'envergure et dangereux pour l'État. Et ça a surtout concerné donc les trois premières semaines d'émeutes fortes et puis aussi les quelques mois qui ont suivi et pour que se mette enfin en place toute la tactique contre-insurrectionnelle de l'État et du capital pour enrayer tout ça et ce retour à la normale dont on parle souvent. Et donc là, ça a été la cerise sur le gâteau pour eux-mêmes de cet assassinat, enfin cette mort tragique. Et donc, cet accident, à savoir que même peut-être que ça a été pu être la police qui l'ait fait, ne change strictement rien à la situation.
Yeah.
Les voyages de Prométhée, à propos de la guerre sociale en Grèce et la fin d'un ici et d'un là-bas.
L'État-providence à l'européenne semble dépassé et l'une après l'autre les classes politiques nationales en prennent acte. Un accord avec l'État dans la logique de l'ancien pacte social paraît de plus en plus improbable car il n'existe plus les bases économiques, politiques et sociales pour cela.
Habitués à mener des luttes visant à briser la pacification sociale et le consensus autour, nous pourrions être rapidement confrontés à une nouvelle forme de gestion qui tend plutôt à instaurer un climat de guerre.
Fin des années 70, une restructuration profonde de l'économie a commencé. Complexe industriel démantelé et décentralisé, avec la fabrication délocalisée, les rapports de classe bouleversés et éclatés.
La crise financière de l'année passée est une conséquence de ces restructurations. Les États ont déjà épuisé les recettes susceptibles de renflouer leurs caisses. La situation actuelle en Grèce nous donne un avant-goût de ce qui nous attend dans d'autres pays.
Les plans d'austérité vont diamétralement à l'encontre de l'État social. L'objectif affiché n'est plus l'inclusion des pauvres. La population exposée à la misère doit se soumettre à une exploitation renforcée. Face à une immigration croissante, l'Europe forteresse gère les flux humains en lien étroit avec des contrats de travail de plus en plus précaires. L'existence d'une sous-couche de la population est donc clairement acceptée et appréciée selon les besoins du marché.
Certains conflits de ces dernières années ont déjà donné des signes d'une exacerbation de la guerre économique. Ce qui se passe actuellement en Grèce vient le confirmer en Europe.
Il faut revenir loin dans l'histoire pour retrouver un moment et un espace où le mouvement révolutionnaire anti-autoritaire a été capable d'approcher la lutte sociale. Les anarchistes grecs se sont retrouvés côte à côte avec des opprimés qui se soulevaient.
Maintenant que la gauche est au pouvoir en Grèce, en cas d'extension et de durcissement du conflit, deux voies s'offrent. Soit la droite dure, répondant aux exigences du capital national et international, réussit à rétablir l'ordre à l'aide d'une poigne de fer, soit surgit à l'horizon la possibilité d'une insurrection.
En 2009, la Grèce a été secouée par une longue série de grèves, de blocages, de manifestations et d'attaques contre les structures du pouvoir. Il n'est pas exagéré de parler d'un climat de guerre. Le gouvernement a tranché à la hache dans les salaires et les retraites, a augmenté les impôts, a restructuré l'enseignement et quasi aboli la santé publique pour pouvoir maintenir les structures de l'État.
La situation est plutôt critique pour les institutions. Il y a longtemps qu'un État européen n'avait senti une possible insurrection. Mais n'allons pas trop vite. Une grande partie des protestations respecte encore les consignes des syndicaux sociaux-démocrates. Les protestations négligent encore leur autonomie.
Sans vouloir prétendre que la grève générale illimitée serait le présage d'un moment insurrectionnel, il est nécessaire de paralyser l'activité économique et la circulation des marchandises. Pour cela, il faudrait une auto-organisation assumée de la lutte pour arracher l'initiative aux syndicats. Une des possibilités semble être d'œuvrer de manière décentralisée et diffuse à la paralysie de l'infrastructure économique.
L'insurrection n'est pas l'œuvre de révolutionnaires et d'anarchistes seuls. Elle est sociale. Tout comme elle ne tire pas sur des exploités pour mettre fin à l'exploitation, mais sur les structures et les hommes qui rendent l'exploitation possible.
L'État a tout intérêt à pouvoir présenter le conflit comme un combat entre deux factions. Dans ce cas-ci, l'État contre les adeptes de la guérilla urbaine, avec la population en spectateur passif. Bien sûr, il est tout à fait capable d'utiliser le mouvement anarchiste à cette fin.
L'insurrection n'a pas besoin d'avant-garde. Elle ne demande que la détermination à souffler la subversion à travers la société. Déjà maintenant, la question des armes doit être posée dans la perspective d'armer tout le monde, de la généralisation de l'offensive en armes.
L'État grec commence à insister sur une rapide militarisation du conflit et il espère que les anarchistes en prennent l'initiative. L'État ne vise pas seulement à isoler les anarchistes de la lutte sociale, à briser leur dynamique, mais aussi à les entraîner dans une spirale dont le prix pourrait être le recul de la subversion.
L'État utilise les médias dans une optique contre-insurrectionnelle en tentant de terroriser la population. Il ne se maintient plus en achetant la paix sociale, mais en déclarant toujours plus ouvertement la guerre à tous ceux qui luttent.
Il est facile de tomber dans le piège d'un conflit militaire qui serait sans doute le fossoyeur de n'importe quel projet de subversion.
Comprenons bien,
La situation actuelle demande de vrai à se fournir les armes, de partager la nécessité de l'attaque avec tous ceux qui refusent de s'incliner, de donner à l'attaque la place qu'elle devrait toujours occuper. Un geste de destruction consciente d'une structure ennemie.
Ce qui se joue en Grèce aura probablement un impact sur les révolutionnaires en Europe et ailleurs. La possibilité d'une contamination devient chaque jour plus imaginable. La vieille question de l'internationalisme s'impose aujourd'hui et exige de nouvelles réponses.
Vu l'extension de la guerre sociale en Grèce, toutes les luttes et gestes de révolte prendront un poids plus lourd parce qu'ils peuvent être les porteurs redoutés d'une contamination. S'impose alors la nécessité d'aller plus loin que la solidarité et de réellement tisser des liens entre les différentes luttes.
Quoique la restructuration économique en cours semble vouloir faire d'une instabilité généralisée son champ d'accumulation, une autre instabilité est possible qui ne profite pas à la domination.
Nous devons oser nous poser la question de comment faire revivre un rêve, pas comme un mirage, pas comme un mythe, mais comme des intentions vivantes.
Nous devons forcer un passage pour sortir du coin dans lequel nous avons été acculés et arrêter d'en faire l'apologie pathétique.
La conflictualité qui monte pourrait prendre un caractère assez différent de ce que nous avons connu jusqu'alors.
Elle nous offre de vraies possibilités d'expérimenter la contradiction entre approcher la réalité et sortir de la danse.
Plutôt qu'une esquisse exacte de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ces mots se veulent une invitation à regarder droit dans les yeux les défis qui se posent. Beaucoup pourrait se jouer.
Quelques amis de Prométhée, mai 2010.
Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque.
Avec ma gueule de métèque. Paganage de nègre errant, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc au possible, dans le rang impossible. Votre morale au crime, qu'on me délaisse de mon ego. Ça me rampe sale sur l'écran, ça me rampe sale dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. Ah, j'en ai trop, avec ma gueule de métèque. Mon œil de prédateur, en phase avec son temps. J'ai poussé sans tuteur, poussé comme une mauvaise herbe. Comme un monde croit tout seul, qu'on me dicte mon attitude. Fous la gerbe, c'est la merde, c'est la merde.
Avec ma gueule de...
Avec ma gueule de métèque. Un pistolet qui s'est bastonné. À qui on a pris tout volé, si peu donné. J'ai pris des branlés, pas un père déserteur. Au point d'en espérer qu'en enfer y ait du bonheur. La perception atrophiée. Et c'est pas votre moralité qui m'a habillé. Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé, auquel personne n'a jamais voulu rien changer. Avec ma gueule de métèque. Abreuvé par la passion, mon sacerdoce c'est ma mission. Et si récompense il y a, mon cœur me guide au trépas. Rien n'est acquis, je l'ai toujours pris ça. Ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas.
Avec ma gueule,
avec mon air aigré amer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre. Je roule pour la maison mère, avec ma gueule je fais bélec. J'ai pas une ganache de dieu grec. Il est possible qu'on m'arrête ou par erreur qu'on m'affraie. Avec ma bouche qui a trop bu, mon air obtus qui pue la rue. Cette façon d'être à l'affût et en même temps d'être à la rue. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver. Avec mes rêves de délinquant, mes coups de sans incessant.
Et donc pour continuer, on va justement revenir sur ce qui était intéressant dans ces émeutes de décembre en Grèce, décembre 2008. Donc c'était une généralisation de certaines pratiques de violence et en même temps on va aussi parler un peu des limites de ce mouvement et pour commencer parler peut-être un peu du quartier
d'Arcilla où tout a quand même un peu commencé.
C'est un arcillard dans une petite rue piétonne, fréquentée par beaucoup de gens, de tout âge, jusque tard dans la soirée, que le samedi 6 décembre, vers 21h, un groupe de trois jeunes invictives, une voiture de police. L'un des flics descend, insulte les jeunes et tire. En quelques heures, des centaines de personnes se sont retrouvées à Arcia et dans tout le pays, et dans toutes les villes du pays, donnant le coup d'envoi de trois semaines d'émeutes, de révoltes généralisées ou d'insurrections, selon chacun. Arcia est un quartier au centre-ville d'Athènes, foyer de contestation et de rébellion. À 5 minutes de l'université d'Athènes, la fac de droit, à 10 minutes du Parlement et de Syntagma. Historiquement, Arcia est fortement marquée par un esprit de résistance, d'anarchie. L'autonomie y est très implantée. C'est là, entre autres, que se sont déroulés les événements de 1973. Actuellement, une quinzaine de groupes anarchistes y sont installés, comme notamment le centre social Nosotros, un des plus anciens. Arcia est aussi un quartier d'activité où de nombreux cafés, de petites imprimées, de librairies, d'épiceries, des bazars, des ateliers de couture, des petits artisanats et des locaux associatifs. Les rues ont gardé la parole et les murs foisonnent d'affiches engagées. Exactement le type de quartiers qui sont détruits lors des requalifications, comme dans toutes les grandes villes et les métropoles de Europe. Mais là-bas, c'est pas encore fait.
Et donc, ce qui était intéressant donc dans ces émeutes, c'était un peu comment ça s'est organisé. Donc, dans la pratique, la première forme de coordination, c'était donc d'ami à ami par des téléphones mobiles. Alors, il y avait un peu toutes sortes de petits groupes qui prenaient un peu des décisions spontanées dans les rues, qui préparaient des actions, qui les réalisaient de manière un peu chaotique et incontrôlable. Il y avait des milliers d'actions qui avaient eu lieu simultanément dans tout le pays. Chaque après-midi, il y avait une assemblée générale dans les écoles occupées, dans les bâtiments publics et dans les universités occupées. Indie Media, ça a quand même aussi beaucoup servi à passer des annonces et à coordonner stratégiquement les actions. Il y avait aussi les différents partis communistes qui ont organisé leur propre confédération d'étudiants. Et il y a eu aussi une fédération particulièrement influente qui était organisée par les amis d'Alexis, et qui a organisé les manifestations et des actions des étudiants, l'occupation des écoles, et qui a aussi publié des annonces générales sur la lutte des étudiants.
Voilà, et pour ceux qui ont participé aux émeutes, il y a le téléphone, mais aussi Internet, via la création de nombreux blogs et de réseaux de coordination qui ont constitué un élément chaotique et imprévisible. Les assemblées générales, c'était un autre outil d'organisation. Tous les groupes affinitaires, les squats, les centres sociaux, les occupations d'universités et les autres organisations avaient leurs propres assemblées aussi. Donc il faut savoir que la plupart des tactiques qui ont été utilisées à ce moment-là dans la lutte le sont depuis longtemps en Grèce, mais l'aspect le plus important à cette occasion, ce fut l'apparition immédiate des actions dans tout le pays.
Après, donc, il y avait comme principale forme d'action, il y avait la destruction, le pillage, l'incendie. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand des milliers de gens dans les rues ont compris que la fumée noire des incendies pouvait annuler les effets de la fumée blanche des gaz lacrymogènes, ils ont développé la tactique de brûler tout ce qui leur tombait sous la main pour se protéger de ces gaz. Donc ça, c'est bon à savoir, hein. Ils sont souvent attaqués à des quartiers commerçants chics, ils ont ouvert des magasins de luxe en portant tout ce qu'il y avait dedans et ils ont mis le feu. Beaucoup de voitures retournées ont servi de barricade, mettant la police à distance. D'autres techniques comprenaient la casse des pavés des rues avec des marteaux pour en faire des milliers de cailloux que les gens utilisaient comme projectiles et bien sûr les initiatives personnelles de fabriquer et de lancer des cocktails Molotov. Cette dernière tactique a servi surtout à forcer la police anti-émeute à craindre les manifestants et aussi à maîtriser l'espace et le temps des attaques et des fuites.
Et donc il y a des attaques qui ont été lancées contre un tas de banques, de stations ou de voitures de police dans tout le pays. Et dans les villes plus petites, les banques ou la police étaient les principales ou les seules cibles parce que les rapports personnels ont découragé la destruction des magasins, sauf quelques grandes franchises internationales. Il y a aussi eu donc des centaines d'occupations qui ont eu lieu dans un tas de bâtiments publics, de bureaux municipaux, d'offices publics, de théâtres, de stations radio ou de télé et d'autres bâtiments par des groupes de 50-70 personnes. Il y a eu aussi de nombreux actes de sabotage et de blocage des rues, des routes, des bureaux, des stations de métro, des services publics, etc., avec distribution de milliers et de milliers de tracts aux gens du coin. Et tous les jours, donc, il y avait aussi des protestations silencieuses, des manifestations artistiques et des actions non violentes devant le Parlement et dans toutes les villes, des gens de gauche ont organisé des concerts dans des lieux publics. Le Parti communiste, il s'est détaché des pratiques émeutières et ils ont organisé des actions séparées, des manifestations qui contrôlaient. Beaucoup d'entre elles attiraient cependant une bien plus faible participation.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a quand même eu dans ce contexte une importance qui était accordée, l'héritage laissé par la dictature en Grèce a quand même pas mal influencé aussi. Donc, en 1973, les jeunes avaient pris le risque de la révolte contre une dictature qui durait déjà depuis 7 ans. Même si cela n'avait pas été la seule cause de la chute de la dictature, hein, il reste dans la mémoire collective que les étudiants ont sauvé la Grèce de la dictature et de la domination américaine. Bien sûr, c'est aujourd'hui une vieille histoire, et même si elle participe au contexte des luttes, on n'en parle pas dans le combat actuel. Une autre influence doit être trouvée dans les luttes étudiantes de 91 et de 95, hein, contre la privatisation de l'éducation, qui ont obligé le gouvernement à changer ses plans et qui sauvèrent l'éducation publique jusqu'à ce jour. Donc c'est vrai que la révolte de 2007 a probablement été le point culminant du mouvement anarchiste en Grèce avant aujourd'hui, parce qu'elle est apparue dans tout le pays et qu'elle a fortement influencé les actions, les mots d'ordre et les idées d'une bonne partie de la société. Mais les luttes étudiantes d'avant, surtout à Athènes en 91, étaient plus visibles et surtout plus généralisées.
Et la plupart des gens étaient révoltés par le meurtre d'un garçon de 15 ans par un officier de police. Donc, même si personne n'aimait tellement la police, beaucoup détestent la police plus encore qu'avant. Et ben, y a de nombreuses actions, selon certains témoignages, qui sont devenues assez populaires, comme les attaques au supermarché, la distribution libre de produits volés. Elles sont maintenant assez bien acceptées, ainsi que les attaques des banques, surtout après la crise économique. Voilà. Et les attaques des stations de police, elles ont été adaptées et utilisées dans tout le pays.
Comme un hiver d'un millier de décembre. La violence.
C'est travailler 40 ans pour des salaires misérables et s'estimer heureux si jamais on parvient à prendre sa retraite.
La violence.
C'est l'affaire des obligations, les fonds de pension volés, l'arnaque boursière.
La violence.
C'est être forcé d'emprunter pour te loger et de rembourser à prix d'or.
La violence.
C'est le droit pour la direction de te licencier quand elle veut.
La violence.
C'est le chômage, l'intérim, 400 euros de salaire avec ou sans sécurité sociale.
La violence.
Ce sont les accidents de travail, vu que les patrons diminuent leur coût aux dépens de la sécurité.
La violence.
C'est de se rendre malade de travailler si dur.
La violence.
C'est de consommer des psychotropes et des vitamines afin d'affronter des horaires de travail épuisants.
La violence.
C'est ne pas avoir l'argent qui sert à s'acheter des médicaments nécessaires pour maintenir ta capacité de travail.
La violence.
C'est mourir sur des lits prêts à l'emploi dans les couloirs des hôpitaux horribles quand tu ne peux pas payer de pot de vin.
Prolétaires occupant le siège de la Confédération syndicale grecque, Athènes, décembre 2008.
Ouais, donc maintenant là, ça va être un texte qui est tiré, donc comme la première émission de la Grèce, si vous en souvenez, de théorie communiste qui essaye d'expliquer donc ce qui s'était passé durant la première partie du mouvement grec. Et cette fois-ci, c'est donc plus précisément sur le mouvement anti-autoritaire et les assemblées populaires qu'ils ont réussi à faire vivre au travers de leurs occupations et de leurs pratiques presque séculaires.
Nous venger non seulement pour la mort de Alexis, mais aussi pour les milliers d'or qu'on nous vole, pour les milliers de moments d'humiliation face aux flics, les milliers de moments où l'on a retenu notre colère. Nous venger pour nos rêves qui sont devenus publicité, pour nos idées qui sont devenues marchandises et consommation, pour la vie qui s'use continuellement. Nous venger pour nous-mêmes qui devenons petit à petit des ombres dans une vie quotidienne qui se répète. L'influence sociale et politique du milieu anti-autoritaire est difficile à discerner. Les batailles entre adolescents et patrouilles de police à Erarsia, ou les cocktails Molotov lancés contre les forces spéciales de la police, font partie d'une guerre de basse intensité entre l'État et des secteurs de la jeunesse. Du fait de sa familiarité historique avec les destructions et les affrontements violents avec les flics, l'idée d'implanter la violence révolutionnaire dans les mouvements sociaux par l'action exemplaire est tout à fait répandue dans le milieu anti-autoritaire. Mais dans le cas particulier des émeutes de décembre, la violence fut utilisée avec une facilité sans précédent. La question d'une avant-garde violente ne fut pas posée en pratique, dans le sens où tout le monde a été dépassé par la rébellion. Tout le monde savait que les gaz lacrymogènes étaient à l'ordre du jour. Il n'y avait pas besoin de promouvoir la violence. Celle-ci faisait déjà partie de la dynamique sociale. Il y a toujours eu des minorités radicales dans les luttes de classe. Mais historiquement, chaque action d'une minorité devient une pratique de la majorité quand elle provient des besoins de la lutte. Si elle n'est pas généralisée, elle est marginalisée et tend à devenir un fétiche. De plus, la généralisation de la répression signifie que le capital prend une forme plus conflictuelle. C'est pourquoi le confinement des émeutes dans les limites du ghetto d'Erarcia favorise l'État, à même de définir le lieu, les acteurs et le contenu du conflit. Finalement, pour les groupes de radicaux, la question du contenu de la violence est nécessairement posée. Si la révolution signifie créer de nouveaux rapports en détruisant les anciens, alors seule la poursuite de la lutte sociale peut créer les conditions pour vaincre le capital. Les affrontements violents avec la police ne sont pas révolutionnaires en soi, exactement comme n'importe quelle autre activité prise séparément. Si la communauté des barricadiers se cantonne derrière la barricade et ne se diffuse pas dans l'espace et le temps, si l'occupation se confine elle-même dans un bâtiment, alors elle ne peut être révolutionnaire, peu importe son niveau de combativité et de radicalité. La révolution, c'est la classe qui s'abolit elle-même en tant que classe dans le conflit avec le capital. La révolution, c'est la classe qui s'abolit elle-même dans le conflit avec le capital. Le milieu anti-autoritaire a été largement présenté hors de Grèce par les médias alternatifs comme les provocateurs des émeutes de décembre. Il est vrai que la contribution de nombreuses composantes du milieu a été très importante au début de la rébellion, dans la mesure où leurs réflexes aiguisés contre la répression étatique et leur familiarité avec les pratiques violentes les ont aidés à réagir immédiatement après le meurtre qui de surcroît a eu lieu à Erarcia, le quartier des anarchistes d'Athènes. Néanmoins, en aucun cas nous ne pouvons dire que la rébellion a été le fait des anarchistes, ni qu'elles aient été numériquement la composante la plus importante des émeutes et des destructions de la période du 7 au 10 décembre. C'est pourquoi l'affirmation selon laquelle toutes les avant-gardes furent dépassées a été très forte et fut reprise telle qu'elle dans toutes les assemblées qui ont suivi. Une des pratiques les plus importantes des anti-autoritaires fut aussi l'occupation des bâtiments universitaires du centre d'Athènes et de Thessalonique. À Athènes, parmi les occupations d'universités du centre, des initiatives de blocage des stations de métro et des actions violentes contre la police furent lancées. L'occupation des bâtiments universitaires du centre-ville a été une pratique traditionnelle des anti-autoritaires. Pourtant, durant décembre, cette pratique fut étendue pareillement aux autres villes grecques. Une différence majeure fut l'occupation des hôtels de ville et d'autres bâtiments publics, principalement dans les zones où se trouvent des squats, repères anti-autoritaires. Le but principal de ces occupations fut la continuation et l'extension du mouvement, le besoin de contre-information et l'expression de solidarité avec ceux qui avaient été arrêtés. Des actions de solidarité et des manifs locales furent lancées depuis ces occupations, ainsi que les assemblées populaires. Assemblées populaires comme une partie d'un programme politique de démocratie directe. Les assemblées ont été présentées comme la forme absolue d'auto-organisation. Elles ont été présentées comme le triomphe de la volonté générale, de la fermentation, de la confrontation fertile, comme le lieu naturel et par excellence où le mouvement prend les décisions relatives aux actions. Pourtant, dans les faits, une grande partie des actions violentes étaient sans revendication et n'ont pas été décidées pendant des assemblées. Les assemblées populaires constituaient malgré tout d'une part le dépassement des moyens de communication et de l'autre, elles n'étaient rien d'autre que des procédures démocratiques. La médiation de l'assemblée se présentait comme nécessaire afin que les pratiques de rue se diffusent. Mais en fait, elle montrait déjà que la démocratie reviendrait comme limite de la rébellion. Des gens qui n'avaient pas pris part aux émeutes des jours précédents se joignirent aux assemblées. Une partie de la classe ouvrière qui ne s'était pas rebellée, mais qui ressentait de la sorte le besoin de communiquer avec les insurgés. Mais aussi, dans certains cas, une autre partie de la société opposée à la rébellion. Principalement des éléments petits bourgeois de chaque quartier qui craignaient la possibilité d'une extension réelle de la révolte dans les quartiers et qui avaient à juste titre réalisé que leur opinion avait voix au chapitre dans une procédure démocratique. D'un côté, les procédures devinrent plus massives et de l'autre, il était clair que cette composition élargie ne pouvait que tempérer et ralentir l'action. En fait, de nombreuses discussions et de conflits eurent lieu. Et à la fin, quand la rébellion s'étiolait, les assemblées furent transformées en instruments de lutte pour faire face à des problèmes locaux. Au travers des assemblées, une critique démocratique de la démocratie s'était exprimée. La démocratie actuelle n'est pas suffisante, il en faut plus. La rébellion portait ses propres limites. La rébellion portait ses propres limites. Et il se peut que dans le futur, des luttes sans revendication soient plus nombreuses. Il se pourrait que la lutte de classe et la dialectique entre revendication et destruction deviennent lutte contre le capital. Il est possible que les classes dangereuses apparaissent progressivement sur le devant de la lutte et que la classe laborieuse commence à attaquer peu à peu les lieux de travail en plus des bâtiments d'État, qui alors, peu importe le nombre de flics engagés pour les garder, demeureront en situation délicate. Et l'insurrection se lèvera alors devant nous. Et l'insurrection se lèvera alors devant nous. Devant nous. Devant nous. Devant nous.
Oui, vous êtes toujours sur une des chaînes.
88.4.
Et on voulait revenir donc sur l'école polytechnique, qui est un lieu assez symbolique et qui l'a notamment été en 2008. Donc elle se trouve en bordure du quartier d'Exarchia. Elle a été vidée de la plupart des étudiants il y a déjà plusieurs années. Et du fait de l'asile universitaire, ce lieu, il a été occupé à de nombreuses reprises. Et notamment donc en décembre, en 2008, l'occupation dura 18 jours, puis se termina de sa propre initiative. L'école, elle était surveillée de près en permanence par la police, évidemment. Et donc début janvier 2009, juste derrière ce lieu, il y a un flic qui s'est fait tirer dessus. Donc cet événement a déclenché une vague de perquisitions et d'arrestations et donc une nouvelle invasion d'Exarchia par la police anti-émeute. Et dans les jours qui ont suivi, les assemblées générales ouvertes ont recommencé à se tenir à l'école polytechnique. Voilà, donc elle fut également un lieu de repli où les manifestants se protégeaient des interventions policières. Et fin 2009, au moment de l'anniversaire de la mort d'Alessi, l'occupation de Polytechnique reprend.
Reprend tout en sachant que l'asile universitaire, c'est justement un lieu qui leur permettait de s'isoler et de ne pas se faire attaquer par la police, et qui est une loi qui disparaît justement en 2009 par rapport au fait que beaucoup de choses s'y passaient, quoi. Et donc, voilà, communiqué de l'occupation de l'école polytechnique d'Athènes, 6 décembre 2009. Un an après l'assassinat d'Alexandros Gregoropoulos par l'État grec, l'armée d'occupation du régime essaie de contrôler chaque coin de rue. Les assassins armés ont envahi le squat autogéré Resalto et la mairie du quartier occupé suite à l'entrée des flics dans le squat. Ils ont isolé les espaces de lutte politique et sociale. Ils ont encerclé le quartier d'Exarchia et l'école polytechnique en procédant à un grand nombre d'interpellations et d'arrestations pour des contrôles d'identité et certains avec des chefs d'inculpation. et cela continue en ce moment. Les porte-paroles du régime, les médias, reproduisent la propagande d'État en créant un climat de terreur. Un an après la révolte sociale de décembre, le système de l'oppression et de l'exploitation tente de regagner du terrain. Il tente d'imposer un état d'urgence afin de museler la rage populaire et d'imposer un silence de cimetière dans la société. Prenant acte que la ville est sous occupation, nous occupons l'école polytechnique. Nous appelons chacun qui résiste à continuer la lutte par tous les moyens. Nous tenons cet espace et nous déclarons notre solidarité à tous ceux qui subissent la répression d'État. Nous exigeons la libération immédiate de tous les interpellés et les inculpés. On n'oublie pas, on ne pardonne pas, tout continue.
Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Nous venger. Nous venger non seulement pour la mort de Alessis, mais aussi pour les milliers d'heures qu'on nous vole, les milliers de moments où l'on a senti l'humiliation, les milliers de moments où l'on a retenu notre colère. Nous venger pour nos rêves qui sont devenus publicité, pour nos luttes qui sont devenues marchandage et marchandises, pour la vie qui s'use continuellement. Nous venger pour nous-mêmes qui devenons petit à petit des ombres dans une vie quotidienne qui se répète. Décembre fut une révolte d'une minorité qui vit dans ce coin du monde. Par ses actions, cette minorité a critiqué les rapports sociaux, le travail, la marchandise et l'État. Cette critique destructrice et créatrice à la fois était anticapitaliste et non réformiste, et elle exprimait l'envie de voir disparaître ce monde de merde. Remember, remember the 6th of December. Depuis ce soir-là et pendant quelques jours, ce sont les actions d'une foule de jeunes surtout qui ont parlé. Flics et commissariats attaqués, banques incendiées, magasins détruits et pillés, ministères, chambres d'industrie et entreprises de location de personnel vandalisés, universités, mairies et autres bâtiments publics occupés. Les attaques contre les magasins de luxe commencèrent dès la première nuit. Le lien entre le meurtre du jeune de 15 ans et l'arrogance du capital était clairement affirmé. Les attaques contre les concessionnaires automobiles, les feux de circulation, les arrêts de bus eurent lieu régulièrement. Les attaques contre les banques, qui symbolisaient la domination de l'argent, furent acharnées. Et pendant les premiers jours de la révolte, il a été tenté systématiquement de les incendier. Il est important d'examiner comment la configuration urbaine spécifique du centre d'Athènes a contribué à la jonction de différentes parties de la population pendant la révolte, reliant en un seul bloc le quartier des révoltés permanents et celui des immigrés. Erarchia est un quartier où se passe une guerre de basse intensité, d'où ressort un conflit quasi permanent entre la police et divers éléments de la jeunesse. C'est un territoire de contre-culture, de sous-culture et de marche sociale, ainsi qu'un espace de circulation et de fermentation d'idées politiques plus ou moins radicales. Dit quartier des anarchistes, il ressemble au village gaulois à l'intérieur de la métropole marchande et sécuritaire. Historiquement, il a été l'endroit de comportements subversifs et de conflits sociaux intenses, notamment autour de l'école polytechnique, souvent occupée au cours de son histoire. Et juste de l'autre côté du boulevard Pâtition sont situés les quartiers des immigrés, qui constituent le lieu où se rassemblent les parties les plus pauvres du prolétariat multinational. Et sur le troisième côté, ce sont les zones de la richesse, du pouvoir et de l'État. La proximité de ces zones crée un mélange détonnant qui explosa en décembre. Pendant l'explosion, différentes réactions à la précarisation de la vie se rencontrèrent. C'est pourquoi la révolte se diffusa. Le feu se répandit
et menaça de brûler une bonne partie du pays. La violence sociale de décembre montrait la direction d'un nouveau monde. Par ses attaques contre les bâtiments et les magasins, par le pillage des marchandises, par la pratique antisyndicale et par les attaques sauvages des commissariats, ces actions sont importantes parce qu'elles se placent en dehors de tout cadre revendicatif. Ni représentants, ni revendications. L'absence de revendication a permis à une forme d'organisation informelle d'exister dans la rue. Cela fut visible dans la simplicité sauvage des banderoles qui disaient simplement « assassin ». Il n'y eut pas d'appel officiel aux protestations. Les émeutiers organisaient leur action dans l'immédiateté et dans le désir mutuel. Ce sont des groupes d'agitateurs incontrôlables par les partis. Ce sont les émeutiers en cagoule. Ces groupes d'amis ne prennent pas la responsabilité de leurs actions parce qu'ils ne veulent pas en tirer un profit politique. Leur présence imprévisible est leur force principale dans un événement d'où ils disparaissent aussitôt. L'importance de ces groupes en tant que forme d'organisation a empêché l'État de trouver une représentation des révoltés et surtout, il n'a pas pu en fabriquer une. Ni représentants, ni revendications. Dans tout mouvement revendicatif, il existe par définition une organisation qui exprime ses limites. Par exemple, un syndicat qui organise une grève assume en fin de compte le rôle de garantir la reprise du travail. De même, un parti qui organise une protestation a le rôle de définir le moment de la victoire ou de la défaite, c'est-à-dire le moment de la fin du combat. Dans le cas de décembre, il y a eu des récupérateurs de toutes sortes, qui soient condamnés en bloc la révolte ou seulement la soi-disant violence aveugle. Pourtant, la tentative a échoué, car les médiateurs faisaient face à des révoltés qui avaient compris qu'ils n'avaient rien à attendre du capitalisme. Pendant la révolte de décembre, les insurgés s'approprièrent ce qui devenait accessible dans le chaos que les émeutes créaient. Les pillages constituent le plus grand scandale de décembre. Les journalistes et les médiateurs politiques de tous bords ont pu, dans un premier temps, supporter, voire justifier, les attaques contre la police et les vandalismes, mais jamais l'attaque contre la propriété privée. Et pourtant, quoi de plus naturel que l'expropriation directe quand le spectacle distribue à gogo des promesses de bonheur consumériste au moment même où l'on nous en prive. Le rôle principal dans les pillages de décembre a été tenu par des immigrés, des précaires, des élèves, des étudiants, mais également par des prolétaires grecs d'un âge plus avancé, qui ont su profiter de la faiblesse de l'État à protéger son capital. Bien entendu, l'État a tenté de distinguer les révoltés grecs des pilleurs étrangers, comme pour le bon manifestant et le méchant casseur. Les pillages ont commencé à Athènes juste après le coup de feu assassin, le premier soir de la révolte, et à Thessalonique le lendemain. Dans certains cas, c'était des dizaines de personnes qui apparaissaient brusquement, venues de nulle part, pour vider les magasins. Dans d'autres cas, il y eut des pillages derrière les barricades, dans des quartiers qui étaient provisoirement libérés de la police durant les affrontements. À certaines occasions, il y a eu des attaques de distributeurs automatiques de billets visant la monnaie sonnante et trébuchante, mais sans succès. D'autres ont saisi l'occasion pour organiser des attaques contre des joailleries et autres commerces de luxe. Souvent après le pillage, les révoltés détruisaient les magasins et les marchandises qu'ils n'avaient pu emporter, déclarant ainsi que bien qu'aujourd'hui ils utilisaient les marchandises, ils ne souhaitaient pas que les magasins existent demain. Mais le pillage est aussi une pratique contradictoire, et les dégâts réellement causés au rapport marchand restent partiels. Le rapport marchand survit finalement dans la possession personnelle ou dans la revente des butins. Les marchandises appropriées deviennent non des choses utiles pour tous, mais des valeurs d'usage pour chacun. Mais on n'oubliera pas que certains participants, au lieu de se réserver les marchandises, les jeter dans le feu, soulignant ainsi la valeur d'usage qu'elles devraient avoir en ce moment précis. Nous ne savons pas exactement tout ce qui s'est passé et nous pouvons facilement penser que certains jours de congé furent fêtés, n'ayant plus besoin temporairement d'aller bosser et d'imaginer de grandes fêtes avec de la nourriture et les boissons volées, consommées en quantité durant des rassemblements nocturnes colorés et bruyants. Mais ces fêtes sont incomplètes. Elles sont le retour à la normale. La pratique du pillage ne sera réellement libératrice que lorsqu'elle atteindra sa destination finale, la réappropriation de notre avenir volé. L'abolition de la valeur commencera nécessairement par la destruction des choses. Et quand cette destruction sera généralisée, alors apparaîtra le besoin de l'affrontement avec le capital, jusqu'au point qui rendra impossible tout retour en arrière. La pratique des jeunes scolarisés pendant la révolte montre toute la difficulté du système capitaliste à perdurer et se reproduire. Les futurs travailleurs chômeurs, sachant qu'ils seront les précaires de l'avenir, refusent leur rôle de lycéens ou d'étudiants dans le présent. Pendant les premiers jours de la révolte, les jeunes scolarisés parcouraient en groupe les villes, cherchant vraiment la police. Et quand ils la rencontraient, ils attaquaient jusqu'à l'épuisement. Ils se tenaient avec audace à très courte distance des flics, risquant l'arrestation et le passage à tabac. Et ils étaient vraiment incontrôlables. Et leur absence de revendication s'est exprimée par un élan destructeur contre les commissariats. Les actes de révolte simultanés des précarisés grecs et des immigrés marquent le dépassement des divisions ethniques, raciales et religieuses. La première génération d'immigrés des Balkans n'a pas pris vraiment part à la révolte. Par contre, leurs enfants, qui ont commencé leur vie dans ce pays, ont des attentes plus grandes et ils voient qu'elles ne peuvent pas être satisfaites, ce qui constitue pour cette génération une raison de se révolter. Ces jeunes immigrés vont à l'école et malgré le fait qu'ils ne soient pas séparés du reste des élèves, vivent le racisme et la dépréciation au quotidien. Et ils savent qu'ils sont les premiers à faire face à une échelle sociale bloquée. Aux émeutes d'Athènes ont également participé les immigrés récents et misérables qui vivent dans les quartiers ghettos du centre-ville, les surnuméraires exclus, afghans, pakistanais et africains. Ces prolétaires ont participé au combat du centre-ville aux alentours de leur quartier pendant les premiers jours des émeutes de décembre et ils ont pillé plusieurs magasins quand l'occasion se présentait. Ils ont aussi attaqué le commissariat d'Omonia, connu pour les nombreux cas de brutalité contre les immigrés. Alors il restera de décembre et de la violence sociale, le dépassement des différences, des divisions et des luttes.
L'insurrection se lèvera alors devant nous.
Monsieur a des fourmis dans les jambes. Monsieur rêve de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.